au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Relevez le numéro du premier billet de banque qui vous tombera sous la main et le prix indiqué par le premier prospectus. Additionnez. Ajoutez le numéro de votre passeport. Vous n'êtes plus très loin du numéro qui vous vaudra les 80 millions du gros lot de la Loterie Nationale que vous obtiendrez en multipliant par la racine carrée de Balzac 0514.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions sont plus différentes.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, les chiffres sont sidérants. En 2018, en France, sur Internet, les paris sportifs ont augmenté de 56% par rapport à 2017, avec 12% de plus de participants. Le poker en ligne a vu croître de 15% le niveau de l'argent qu'il a avalé. Toutes dépenses confondues, plus de 14 milliards d'euros ont été lancés dans ce gouffre pour répondre à l'offre ludique, comme disent les spécialistes. Quant aux bons vieux jeux de société, ils ne déclinent pas pour autant, bien au contraire. 112 millions de boîtes qui permettent de les pratiquer en famille ont été vendus en 2017. Et le reste de la planète n'est pas en retard. C'est ainsi que 2,5 milliards d'humains tout autour du monde s'adonneraient aux jeux vidéo. Voilà bien un phénomène qui constitue un stimulant impérieux pour une émission consacrée à ce thème. Il va s'agir de s'attacher aux multiples manifestations d'un phénomène qui remonte, comme l'attestent les fouilles et les textes anciens, aux origines mêmes de l'humanité. Il va s'agir de considérer comment les sociétés, les religions, les gouvernements se sont efforcés de réguler une passion collective qui semble bien immarcessible, d'en maîtriser les effets pervers pour l'ordre public, et souvent d'y quérir de bons avantages politiques ou financiers, tout en ne laissant pas de s'inquiéter régulièrement des dérives individuelles dans l'ordre des méfaits comme de la dépendance qui emprisonne les joueurs compulsifs. Ne nous dit-on pas qu'actuellement, 250 000 de nos compatriotes souffriraient de cette grave assuétude aux jeux d'argent? J'ai convié à ce micro Elisabeth Belmas, professeure émérite à l'Université de Paris 13, parce qu'elle a publié naguère un bel ouvrage consacré aux jeux dans la France moderne du 16e au 18e siècle, et parce que sa curiosité, comme il convient en histoire, ne manque pas de s'élargir au-delà et qu'elle vient s'étendre jusqu'aux rives agitées de notre monde contemporain.
Par trois gars de mon quartier, je me suis laissé entraîner dans un tripot la semaine dernière. Dans une salle enfumée, nous nous sommes installés autour d'une table de poker. On a enlevé nos vestons, commandé force poisson, puis la partie a commencé telle que je vais vous l'expliquer. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Ah, c'est merveilleux, on va jouer au poker. On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit carte, puis on écarte. J'en jette trois car j'ai déjà une paire. Quand tout le monde a son jeu, on se regarde en chien de faïence. On essaie de lire dans les yeux du voisin plein de méfiance. J'ai pris trois cartes et lui deux cartes, vous combien de cartes? Moi juste une carte. Ah ah, faut se méfier, y a du bluff dans l'air. Je suis blind à toi de parler, dit au second le premier. Et ce dernier s'écrit parole. Le troisième mis 100 francs, je dis des 100 plus 1000 francs. Les deux autres s'arrêtent au vol. Le troisième me dit voilà tes 1000 francs, qu'est-ce que tu as? Trois dames, j'ai gagné je crois, non dit-il car j'ai trois rois. On prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on donne les cartes. Je me dis qu'es-tu venu faire dans cette galère? On reprend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit cartes puis on écarte. Je me dis maintenant va falloir se refaire. Pendant toute la partie je me faisais des reproches. Quand se termina la nuit je n'avais plus rien en poche. Avant que je ne parte je prends les cartes, je déchire les cartes, je jette les cartes et les piétine avec colère. Mais au moment de m'en aller, j'entends des coups de sifflet, une descente de police. Les inspecteurs du quartier veulent tous nous interroger. Me voici devant la justice. Ils me disent, mon garçon, nous sommes bons et te donnons une minute pour t'expliquer. Je leur ai dit, affolé, on prend les cartes, on brasse les cartes, on coupe les cartes, on mène les cartes. Je n'ai jamais rien eu de meilleur qu'une paire. On prend ses cartes, on regarde ses cartes, on s'écrit carte, puis on écarte. Je vois très bien, me dit le commissaire. On va vous emprisonner, car du reste, moi, je m'en fiche. Mais on va vous affecter au département des fiches. On prend les cartes, on regarde les cartes, on trie les cartes, on range les cartes. En prison, je suis devenu fonctionnaire. Tout ça parce qu'un jour, un bien triste jour, j'ai voulu jouer au poker.
Elisabeth Belmas, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
C'était... Vous l'avez assurément reconnu, Charles Aznavour, qui dans une chanson assez peu connue, qui remonte à 1951, traitait du poker. Quel destin pour un joueur de devenir fonctionnaire, c'est effrayant.
C'est un destin inattendu. Il n'empêche que Charles Aznavour, lorsqu'il déchire les cartes, par dépit, rejoint les comportements des joueurs du XVIIIe siècle, décrits par le moraliste Jean Dussault. Il décrit des joueurs furieux de leur perte et qui jettent les dés, qui ensuite déchirent les cartes et ils se laissent aller à toutes les manifestations de la fureur. Bon, néanmoins... À l'époque, ils ne deviennent pas fonctionnaires.
Il est intéressant, ce Dussault, nous le retrouverons tout à l'heure, parce qu'il décrit en effet les différents moments de cette assuétude. Certains disent plus souvent maintenant addiction, mais comme c'est un mot anglais, je préfère le vieux vocable national. On voit aussi arriver la force publique dans la chanson.
Bien sûr. Et la force publique est présente. Je dirais que la loi a toujours été présente. Le régime des jeux d'argent aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'il était autrefois, puisque tous ces jeux sont interdits et ils ont lieu par dérogation. Donc il y a une similitude parfaite de la loi hier et aujourd'hui.
Avec toujours cette tentation un peu ambiguë de l'État de condamner et en même temps indirectement de faciliter le jeu puisqu'il y trouve son profit.
Bien sûr, ne sont autorisés que les jeux ou les structures de jeu permises par l'État, autrefois l'État royal, aujourd'hui l'État républicain, ce furent en France des loteries, par exemple, ponctuelles, jusqu'au XVIIIe siècle, et le point final étant la création en 1576 de la Loterie royale de France. Aujourd'hui, c'est Française des Jeux, le PMU, les casinos qui sont des concessions, et enfin les jeux en ligne.
J'imagine que nous allons retrouver cette contradiction qui vaudrait aussi pour le tabac, après tout, et peut-être pour l'alcool. L'alcool, l'État y trouve son profit, et en même temps, il paye des campagnes de dissuasion. Vous rappelez cette affiche qui était dans le métro où on voyait un adulte et son enfant, et l'enfant disait « Papa, ne bois pas, pense à moi ». Les esprits malins, les gamins avaient rajouté « Papa, ne bois pas tout, pense à moi ». Mais revenons au jeu, si vous voulez bien. Les fouilles montrent qu'on a joué depuis très très longtemps.
Absolument, donc probablement depuis l'âge préhistorique, bien que nous ne soyons pas très renseignés.
Mais les coquillages parfois, non ?
Les coquillages et en tout cas les osselets. Les osselets de moutons, hein, c'est-à-dire ont été retrouvés dans de nombreuses fouilles.
Les coquillages qui tombent d'un côté ou de l'autre, semble-t-il.
Absolument.
Mais il faut remonter à l'Antiquité grecque avec Troie, Homère, le fameux Palamède qui aurait inventé le jeu pour distraire les assaillants grecs de leur ennui pendant qu'ils assiégeaient la ville. C'était Palamède. Palamède, c'est d'ailleurs le prénom de Charlus dans La recherche du temps perdu.
C'est également le nom d'une revue consacrée à des échecs, aux jeux d'échecs.
Et qui existe encore ?
Alors, je ne sais pas si elle existe encore, mais en tout cas, elle a publié longtemps, elle est sortie longtemps. C'était une revue consacrée aux jeux d'échecs, en effet. C'est là l'origine mythologique des jeux. Et c'est très intéressant parce que cette origine mythologique associe toujours les jeux de hasard et d'argent à des circonstances néfastes. Le siège de Troie, ou d'autres circonstances qui sont des circonstances de guerre, en général, les joueurs pratiquent un jeu pour oublier qu'ils sont assiégés, pour oublier qu'ils ont faim. Donc ce sont toujours des circonstances de malheur qui entourent l'origine mythologique des jeux.
Il y a aussi, du côté du christianisme, ce moment qui a tant inspiré les peintres et tellement suscité le chagrin des théologiens, c'est le moment où, au pied de la croix du Christ, les soldats jouent au dé pour savoir qui aura droit à sa tunique.
En effet, c'est l'une des condamnations, l'une des origines de la condamnation par le christianisme.
Évangile selon saint Jean.
Et voilà, des jeux de hasard et d'argent. L'autre étant l'utilisation du sort à des fins profanes. Il ne faut pas oublier que le sort a toujours été sacré, y compris chez les Grecs et les Romains. On interroge le sort pour connaître le destin d'une nation, le destin d'individus importants. Or, dans le jeu de hasard et d'argent, le sort est utilisé à des fins profanes. Et par conséquent, il est considéré comme un blasphème envers la divinité. C'est la seconde origine de la condamnation des jeux de hasard et d'argent par le christianisme.
Il y a toute une réflexion chez les théologiens sur les relations entre la fortune, le hasard d'un côté, et la divinité de l'autre. C'est Champfort, je crois, qui a dit un jour qu'au fond, le hasard, c'était qu'un autre nom de la providence pour les gens qui n'y croyaient pas, et la providence, un autre nom du hasard pour ceux qui étaient vraiment, vraiment religieux.
Absolument, et vous voyez bien pourquoi cette providence, dans ce cas-là, dans le cas des jeux de hasard et d'argent, est utilisée à des fins qui sont dérisoires, tout au moins aux yeux des théologiens. Ce sont des fins dérisoires et elles sont donc condamnables. Dans beaucoup de textes religieux, on condamne aussi le jeu pour ses conséquences sociales néfastes, ou ses conséquences, si vous voulez, psychologiques néfastes, quoiqu'à l'époque le terme psychologique n'existe pas. Mais en tout cas, le jeu excite ce qu'il y a de pire dans l'homme, en tout cas le jeu d'argent, c'est-à-dire l'avarice, la cupidité, et tous les aspects négatifs de l'être humain, ce que nous appellerions aujourd'hui son cerveau primitif.
Alors pour ce qui est de ce risque de voir le jeu faire échapper l'homme à la maîtrise de soi et au respect de la divinité, j'ai choisi pour commencer un extrait d'une nouvelle de Stefan Zweig qui s'appelait « 24 heures de la vie d'une femme », une nouvelle de 1927 où il considère un joueur en faisant, vous allez voir, une sorte de zoom, comme on dirait aujourd'hui, sur les mains du joueur. C'est assez saisissant. C'est une lecture de Nathalie Nerval, une excellente comédienne qui était de la troupe de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Nathalie Nerval qui lit ce texte dans les samedis de France Culture le 13 décembre 1975.
À la seconde où la boule tomba dans le trou avec un bruit sec et mat et où le croupier cria le numéro, à cette seconde, les deux mains se séparèrent soudain l'une de l'autre comme deux animaux frappés à mort d'une même balle. Elles tombèrent, toutes les deux, véritablement mortes, et non pas seulement épuisées. Elles tombèrent, avec une expression aussi accusée d'abattement et de désillusion comme foudroyée, et à bout, que mes paroles sont impuissantes à le décrire, car jamais auparavant et jamais plus depuis lors je n'ai vu des mains si parlantes, dans lesquelles chaque muscle était comme une bouche et où la passion sortait presque tangiblement par tous les pores. Pendant un moment, elles restèrent étendues toutes les deux sur le tapis vert, telles des méduses, échouées sur le rivage, veules et sans vie. Puis l'une d'elles, la droite, se mit péniblement à relever la pointe de ses doigts. Elle trembla, elle se replia, tourna autour d'elle-même, hésita, décrivit un cercle et finalement saisit avec nervosité un jeton qu'elle fit rouler d'un air perplexe entre l'extrémité du pouce et celle de l'index comme une petite roue. Et soudain, cette main s'arca comme une panthère en faisant félinement le gros dos et elle lança, ou plutôt elle cracha presque le jeton de 100 francs qu'elle tenait au milieu du carreau noir. Aussitôt, comme sur un signal, l'agitation s'empara aussi de la main gauche qui était restée inerte. Elle se souleva, glissa, rampa même, pour ainsi dire, vers la main fraternelle, toute tremblante que son geste de lancement semblait avoir fatiguée. Et toutes deux étaient maintenant frémissantes, l'une à côté de l'autre. Toutes deux, pareilles à des dents, qui dans le frisson de la fièvre claquent légèrement l'une contre l'autre, tapaient sur la table avec leurs articulations, sans faire de bruit.
Il y a là quelque chose d'un peu diabolique, une présence de Belzébuth. Vous sentez ça comme ça, Elisabeth Belmas? Ses mains sont possédées?
En quelque sorte, oui. Elles sont possédées parce qu'il s'agit d'un jeu d'argent. Mais il ne faut pas imaginer que les moralistes et les théologiens d'autrefois interdisaient tous les jeux. Il y avait un certain nombre de jeux licites, exemple les jeux sportifs, donc le jeu de paume, les jeux de balles, mais également...
C'est la habileté contre le hasard, c'est très différent là. C'est une question d'habileté physique et ce n'est pas,
oui.
On ne s'en remet pas au sort.
Oui, il permettait également donc de jouer à des jeux de société, en famille et sans argent. Mais, vous savez, la frontière entre le jeu d'argent et le jeu, je dirais, d'habileté est étroite. Et on pariait autrefois sur les parties de paume ou les parties de balle, comme nous avons aujourd'hui les paris sportifs. Voilà. Donc, les jeux d'argent ne sont pas toujours des jeux de hasard. Ils peuvent s'exercer partout. Et on pariait à la paume au tel point que François Ier avait instituer un maître général des gages au jeu de paume, c'est-à-dire quelqu'un qui était chargé de bien veiller à ce qu'on acquitte les paris de la paume.
Alors quand on constate que la coupe de football de l'année dernière a provoqué une hausse considérable, n'est-ce pas, des paris sportifs, on se dit qu'on est là vraiment dans une continuité.
Parfaitement.
Cette distinction demeure néanmoins importante aux yeux des théologiens, des prêtres. Même les pasteurs protestants, qui étaient particulièrement rigoureux, qui étaient particulièrement hostiles à toute idée de jeu d'argent, même ceux-là acceptaient qu'on puisse, en famille, peut-être avec des haricots, ou même sans haricots, jouer avec les jeux.
Et c'est qu'effectivement, les ministres protestants, c'est-à-dire les pasteurs protestants, mais aussi les prêtres de la réforme catholique, disent qu'on peut jouer entre amis, en famille, chez soi, quand il n'y a rien de mieux à faire, et surtout donc à des jeux où on ne parie pas, hein, où on ne met pas d'argent.
Voilà. Je suis sûr que vous rassurez beaucoup de ceux et de celles qui nous écoutent.
Je l'espère. Le jeu est aussi un divertissement.
Un des éléments de cet assouplissement, de cette tolérance éventuelle, c'est l'émergence des mathématiques. Dans ce domaine, l'émergence de la réflexion avec Pascal, Bernoulli et d'autres sur le hasard. Est-ce qu'on peut, les mathématiques peuvent s'en emparer?
Alors les mathématiques ont en quelque sorte contribué à la désacralisation du hasard, ou si vous voulez, à la laïcisation du hasard. Alors déjà, les premiers travaux commencent avec Cardan au XVIe siècle, mais une étape est franchie avec le travail de Pascal sur les probabilités, en particulier le traité du triangle arithmétique en 1654. Et Pascal a réfléchi d'ailleurs à cette question des jeux de hasard pour complaire son ami le chevalier de Méret, qui était un grand joueur. Et le chevalier de Méret se posait des questions, combien de coups au dé arrivera-t-on à tel résultat, ou quand on interrompt une partie en cours, comment faut-il répartir les mises. Donc Pascal a été un des premiers à bien énoncer ces probabilités à partir de l'exemple du jeu.
On est là à la source de ce qui existe toujours aujourd'hui, c'est-à-dire le rêve d'avoir un système qui permettent de triompher du hasard pour gagner et gagner encore.
Absolument. Alors les mathématiciens ont continué au XVIIIe siècle dans la lignée de Pascal. Il y a eu à la fois les travaux de l'essai donc d'analyse sur les jeux de hasard de Montmort, puis il y a eu la controverse de Saint-Pétersbourg au milieu du XVIIIe siècle qui a réuni tous les mathématiciens les plus célèbres d'Europe autour, justement, des jeux de hasard.
Qu'est-ce que c'est que la controverse de Saint-Pétersbourg?
Alors, c'est reprendre les analyses de Pascal sur le moment où ce qu'il faut faire, des mises au jeu lorsqu'on arrête une partie en cours. Et en, aussi en combien de temps on peut espérer arriver à tel résultat quand on lance des dés. Ils reprennent les analyses de Pascal sur les probabilités. Il y a eu aussi le travail de Buffon sur l'essai d'arithmétique morale. Il n'empêche que tous ces mathématiciens qui désacralisent le sort, en même temps, arrivent à une conclusion unanime, c'est-à-dire que de toute façon, quels que soient les calculs, le joueur sera toujours perdant. Il perdra toujours de l'argent.
Et c'est ce qui est toujours vrai.
C'est toujours vrai.
C'est pour ça que l'État s'attache beaucoup à développer ce qu'on appelait autrefois, ou naguère, la loterie nationale, et qui s'appelle maintenant la Française des Jeux.
Absolument. L'État donc s'est fait opérateur de jeux depuis le XVIIIe siècle, en réalité. Mais les jeux de hasard et d'argent rapportent énormément de fonds à l'État, comme vous l'avez dit tout au début de cette émission.
Et simultanément, l'État se préoccupe constamment du risque d'une dérive. Et constamment, il réfléchit à l'élaboration d'un discours répressif dès votre XVIIe siècle. Et cela se lit particulièrement dans ce traité de la police de Nicolas Delamare qui remonte à 1707 et qui est un des premiers à élaborer une sorte de synthèse de comportement souhaitable d'un gouvernement à l'égard des méchants joueurs.
La première édition du traité de Nicolas Delamare date de la fin du XVIIe siècle. Et dans le chapitre consacré au jeu, Nicolas Delamare dresse l'inventaire de toutes les lois qui règlent les jeux donc de hasard et d'argent depuis pratiquement l'Antiquité. Il n'est pas sûr d'ailleurs qu'il n'en invente pas un certain nombre sur l'Antiquité. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les lois à partir du Moyen-Âge, les lois françaises, ces lois sont répertoriées et commentées. Donc c'est une somme en la matière.
Il y a un homme qui est particulièrement surveillé par la police au cours du XVIIIe siècle, c'est le grand Casanova. Vous seriez sûrement étonné, Elisabeth Belmas, si je ne vous avais pas proposé un extrait des mémoires. Une mémoire du chevalier de Saint-Galt, plus connu sous le nom de Casanova. Cet extrait est lu ici par Samson Fincilbert dans l'Heure de culture française du 28 juillet 1959. Et vous allez voir qu'il raconte la manière dont beaucoup d'autres pages l'évoquent. La manière dont il s'organise avec un joueur qui apparaît bien comme un prototype du tricheur. Peut-être nous le confirmerez-vous.
Croce me conduisit au Prato della Valle, où nous trouvâmes madame au café environnée d'étrangers. Nous dînâmes fort bien tous ensemble, et après le dîner, tous les convives demandèrent une banque de pharaon. Mais Croce n'accepta point, ce qui me surprit, car étant adroit joueur, avec 300 sequins, il y avait de quoi tenter fortune. Il ne me laissa pas longtemps dans l'incertitude du soupçon, car m'ayant conduit dans son cabinet, il me montra 50 doblones d'aocho, ce qui faisait 300 sequins. Quand je vis que ce correcteur de fortune n'avait pas jeté son dévolu sur moi pour me faire sa dupe, je lui dis que je me procurerais la somme, et alors il invita tout le monde à souper pour le lendemain. Nous convînmes de partager avant de nous séparer, et qu'il ne tiendrait aucune somme sur parole. Il fallait trouver la somme. Et à qui avoir recours? Je ne vis que monsieur de Bragadin à qui je puisse la demander. Ce bon et généreux vieillard ne l'avait pas, car sa caisse, habituellement, était à sec, mais il trouva un usurier, engeance assez commune pour le malheur de la jeunesse, et sur un billet qu'il signa, il me donna 1000 ducats vénitiens à 5% par mois, l'intérêt du mois prélevé d'avance. C'était la somme qu'il me fallait. Je me rendis au souper. Croce tailla jusqu'au point du jour et nous partageâmes 1600 sequins. On rejoint le lendemain. Le dimanche fut sanctifié par un relâche, mais le lundi, la banque gagna 4000 sequins. Le mardi, ayant tous dîné ensemble, on recommença à jouer. Mais à peine y avait-il quelques tours de fait qu'un exempt du podestat entra et dit à Croce qu'il avait ordre de lui dire deux mots à l'écart. Ils sortirent ensemble. Et étant rentré peu après avec un air un peu confus, il nous dit qu'il venait de recevoir l'ordre de ne plus tailler chez lui. Madame se trouva mal, les pontes filèrent, et moi, après avoir pris la moitié de l'or qui se trouvait sur la table, je fis comme les autres. Je m'en allai, crainte de pis. Croce me dit en partant que nous nous reverrions à Venise, car il avait ordre de quitter l'endroit dans les 24 heures. Je m'y attendais, car il était trop connu. Et son plus grand crime aux yeux du podestat, c'est qu'on voulait que les amateurs allassent perdre leur argent au foyer de l'opéra, où la plupart des banquiers étaient des nobles vénitiens.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Rappelez-nous, Elisabeth Belma, ce que veut dire tailler.
Alors, c'est un terme de jeu, hein, au même titre que ponter et que banquier. Ce sont des termes des jeux de hasard et d'argent du XVIIIe siècle. Le banquier, c'est celui qui avance l'argent et qui servira donc pour lancer les mises. Le ponte, c'est celui qui mise, et le tailleur, eh bien, c'est le chevalier d'industrie, c'est le tricheur qui joue en trichant, hein, qui mise et qui joue ainsi à son profit. C'est ce que Casanova appelle très joliment le correcteur de fortune, c'est-à-dire tout simplement le tricheur. Et le XVIIIe siècle est particulièrement, est fertile dans ce genre de personnalité, c'est-à-dire ce sont des aventuriers de très haut vol, souvent très instruits, fort cultivés, et qui gagnent leur vie bien en jouant de façon professionnelle et en jouant partout en Europe. Ils connaissent les langues européennes, ils connaissent également les jeux européens. L'exemple type, c'est Casanova. Mais un autre bon exemple, c'est Ange Goudard, moins connu et que Casanova n'aimait pas.
Qui est votre Ange Goudard que vous faites surgir tout à coup sous nos yeux stupéfaits?
Eh bien, c'est un personnage fascinant, parce que qui a inspiré plusieurs études. Ange Goudard est issu d'une famille de la riche bourgeoisie. C'est un fils de famille dévoyé et qui a très vite compris que le jeu était une activité lucrative. Mais en même temps, c'est un réformateur politique. Il a écrit des ouvrages extrêmement documentés sur la réforme de l'État. Il a écrit également un petit ouvrage délicieux qui s'appelle « L'histoire des Grecs », c'est-à-dire l'histoire des tricheurs. C'est lui qui est à l'origine, entre autres, du mythe de la Ligue des Chevaliers de l'Industrie, c'est-à-dire une sorte d'international des tricheurs, et il prend comme modèle de cet international tout simplement les francs-maçons.
Et pourquoi est-ce que les malheureux Grecs, ce nom devient synonyme de tricheur?
Bien, ça renvoie à l'Antiquité et à la célèbre phrase Timeo Danaos nec dona et dona ferentes. Je crains les Grecs même lorsqu'ils apportent des présents, et qui fait allusion à la ruse des anciens Grecs, donc à Ulysse.
Comment la police, elle recherche-t-elle, pénètre-t-elle dans les lieux, dans les tripots, et y a-t-il pas des permanences à cet égard avec ce qui se passe aujourd'hui?
Alors bon, je ne connais pas très bien la manière dont la police procède aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils utilisent beaucoup les indicateurs, ce qu'on appelle les mouches autrefois. Et ces gens leur indiquent les lieux où on joue de façon clandestine. Et la police, autrefois, en tout cas au XVIIe et XVIIIe siècle, fait irruption dans ces lieux. C'est la procédure du flagrant délit, c'est-à-dire qu'elle saisit l'argent qui est trouvé sur place, et elle arrête les joueurs, parce que c'est interdit. Alors, est-ce qu'on peut comparer le système du jeu de hasard et d'argent aujourd'hui et autrefois? Oui et non. Il existait un certain nombre d'académies autorisées sous l'Ancien Régime, autorisées par la Lieutenance Générale de Police de Paris, et à certains égards, ces académies autorisées, donc surveillées par la police des jeux, qui existait alors, peuvent se comparer aux cercles de jeux contemporains, hein, qui ont été créés, réautorisés après la Deuxième Guerre mondiale.
Il faut dire que ceux qui voient des jeux interdits sont extrêmement habiles à en inventer d'autres qui ressemblent énormément. La liste des jeux à l'époque moderne, vous nous la donnez en annexe de votre beau livre « Jouer autrefois ». Cette liste est tout à fait impressionnante. Je donne quelques-uns d'entre eux sans vous demander de nous expliquer pour chacun quel était le procédé. Je vois « Bassette »,« Oka », »,« Pharaon », Barbacole, le pour et le contre. Je vois Quinquennov, Béribi ou Biribi. Et puis les 3D, le top étingue, le passe-10, le mormonique, la roulette, le 15, les petits paquets, ça c'est charmant les petits paquets, etc. Vous pourriez, je ne veux pas passer une colle, mais vous pourriez, si je vous le demandais, si nous avions 3 heures devant nous, ce que nous n'avons pas hélas, vous pourriez expliquer les ressorts de chacun de ces divertissements ?
Alors pour simplifier, nous dirons qu'il y avait d'un côté les jeux de hasard pratiqués avec des cartes. Les cartes sont un instrument fabuleux parce qu'on joue à des jeux d'adresse, d'intelligence, mais aussi à des jeux de hasard. Exemple type le pharaon, où on peut se ruiner au pharaon. Hein. Le banquier est là et vous pariez sur la couleur de la carte qui va sortir. Ou alors sur l'enseigne. Voilà.
Ça existe toujours, bien sûr.
Bien sûr, Blackjack. Eh oui. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les jeux de table. Alors, qui se jouent sur donc un carton ou sur un tableau. L'exemple type, c'est le Oka. Avec la version, alors le Oka, c'est si je puis dire la version hard, hein, puisqu'on peut là aussi se ruiner au Oka. Ou alors le Loto, qui est la version, le Loto. Loto des familles, ne pas comparer avec le loto de FDJ, mais qui est le loto de des familles au XVIIIe siècle.
FDJ, c'est la Française des Jeux, je le
Bien
rappelle.
Bien sûr. Oui.
Celle qui va être privatisée, paraît-il.
Peut-être. Et donc, vous avez, grosso modo, ces deux grandes familles. Et ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, la police est toujours à l'affût des jeux interdits. Elle est à l'origine de textes les supprimant. Mais que font les joueurs ? Ils reprennent le jeu, ils apportent une ou deux modifications minimes, et quelques temps après, le jeu réapparaît. Exemple type, le Oka, qui a été interdit dès le milieu du XVIIe siècle. Or, le Oka, c'est la même chose que le 31, qui réapparaît au XVIIIe siècle, fin XVIIe et au XVIIIe.
Et aujourd'hui, c'est quoi le Oka ?
Il n'y a pas l'équivalent du Oka. J'avais d'ailleurs proposé au président de mon université
Paris 13.
De restaurer les finances de l'université en instaurant un jeu de Oka et un jeu de pharaon, mais il m'a répondu qu'il ne voulait pas aller en prison.
Pourtant, il aurait dû savoir utiliser les compétences qui étaient à portée de sa main.
Que voulez-vous ?
Je ne peux pas résister au plaisir de vous faire entendre Sacha Guitry, ses fameux mémoires d'un tricheur qui remontent à 1935. C'est un extrait qui est lu ici par Pierre Olivier dans les Samedis de France Culture, le 13 décembre 1975.
Il y a 100 façons de tricher, mais il n'y a guère que 3 sortes de tricheurs. Tout d'abord, il y a le joueur qui triche, qui ne triche que parce qu'il joue, qui le fait sans méthode, sans préméditation, d'une manière presque inconsciente, involontaire, et dont on sent très bien qu'il est parfaitement honnête en dehors du jeu. Et il y a l'homme qui joue incorrectement parce qu'il est incorrect d'un bout à l'autre de la vie et qui doit penser que ce n'est pas vraiment le moment de cesser de l'être. Enfin, il y a le tricheur de profession, conscient et organisé. Et je puis dire que je suis le type accompli du tricheur solitaire. Qu'il y ait de plus beaux métiers, qu'il y en ait même de plus lucratifs qui le contestera, mais je n'en connais pas qui soit plus amusant. On est en même temps le chasseur et le gibier. Non, je voudrais m'expliquer sur ce point. On assimile les tricheurs aux voleurs. J'estime qu'on a grand tort. Voler, c'est prendre à des personnes foncièrement honnêtes de l'argent qu'elles n'avaient pas exposé. Et ça, c'est très mal. Tandis que tricher, c'est contrecarrer les intentions du hasard. Et c'est s'approprier des sommes que les gens avaient eu l'imprudence ou la présomption d'engager dans un but répréhensible de lucre. Et avec le secret espoir d'être favorisé tout à la fois par le destin et par les fautes de leur adversaire. C'est déjouer leur calcul, et ce n'est pas seulement s'opposer à l'œuvre du hasard, c'est se substituer à lui. Je triche, donc le hasard, c'est moi.
Je vous voyais, en entendant cette archive, Elisabeth Belmas, avoir un bon gros sourire, et comme nos auditeurs n'en profitent pas, je voudrais que vous nous en donniez la clé.
Non, c'est cette figure du tricheur évoquée par Sacha Guitry. Et surtout, c'est la différence entre les catégories de tricheurs qu'il opère.
Pertinent ?
Ah, c'est très pertinent. Voilà. Alors, personnellement, je me suis surtout intéressée aux tricheurs professionnels, c'est-à-dire à la troisième catégorie qu'il évoque.
Chacun sa spécialité.
Oui. Mais c'est extrêmement pertinent, c'est une analyse très fine, sous des dehors absolument, qui sont des dehors humoristiques. Et on peut dire que les tricheurs existent toujours aujourd'hui, puisqu'il y a quelques années, une affaire célèbre a mis en cause des conflits d'intérêts sur des paris sportifs. Hein, certains joueurs, il me semble bien que c'était des joueurs de handball, avaient fait parier leurs amis et leur famille sur l'issue d'un match, ce qui est totalement interdit. Donc la triche existe toujours.
Je voudrais que nous arrêtions un instant maintenant sur ce que la littérature, depuis l'époque de Louis XIV, ce que la littérature a fait et dit du monde des jeux, à quoi nous consacrons notre conversation ce matin. Le sentiment s'impose qu'on est passé progressivement de la comédie au drame. Est-ce que je me trompe ?
Pas du tout. En effet, lorsqu'on regarde les premières comédies sur les joueurs, et quand on parle de joueurs, entendons-nous, il s'agit de joueurs donc compulsifs, de joueurs acharnés. Donc les comédies d'Encourt, etc., ce sont des comédies où le joueur est ridicule. Voilà. Donc on le caricature et il est ridicule. Et progressivement, la littérature, donc au cours du XVIIIe siècle, impose le joueur qui est tragique. Le tournant se fait certainement avec le Gamester d'Edward Moore, qui est une pièce anglaise.
Traduite par Diderot.
Par Diderot et également par Sorin. Et on voit bien qu'à partir de ce moment-là, le tricheur devient un personnage tragique. Et cela continue. Je rappelle Manon Lescaut, ou le chevalier des Grieux qui joue, qui est un chevalier d'industrie, mais un petit chevalier d'industrie un peu naïf quand même. Hein. Donc, est un personnage tragique.
De l'abbé Prévost.
Eh oui, on voit donc dans Manon Lescaut de l'abbé Prévost, et on voit bien que à ce moment-là, le jeu, l'amour et la déchéance sont liés. Et au fond, tout cela amène à la mort, ou tout au moins à la destruction du héros.
Alors qu'une ou deux générations plus tôt, Le Joueur, par exemple, une pièce qui a eu beaucoup de succès de Regnard, montrait un personnage qui était plutôt désigné à la moquerie.
Absolument. Qui était un personnage ridicule. Après, cette veine a continué, cette veine tragique, je rappellerai, donc Dostoïevski, également, n'oublions pas, 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig.
Que j'ai tout à l'heure donné à entendre pour un morceau. Dans Baudelaire aussi, il y a des poèmes qui sont très sombres sur le jeu, cette sorte d'assuétude, effectivement, qu'il déplore. L'alcool et le jeu sont assez frères.
Au fond, au départ, le jeu acharné est une sorte d'habitude un peu ridicule. Et ensuite, cela devient une assuétude, c'est-à-dire une addiction. Une addiction qui entraîne la ruine du joueur.
L'addiction dure toujours, l'assuétude est toujours là. Écoutez donc ce reportage de Nathalie Garrigrand, un reportage télévisé, mais vous entendrez le son, sur une joueuse compulsive sur FR3, le 27 juillet 1993.
Il y a des quartiers dans Paris où elle ne peut plus se promener car il lui rappelle sa ruine, le jeu. 5 ans à fréquenter les tables de baccarat, la solitaire des clubs, des casinos. Elle, mère d'une petite fille, mariée, salariée, elle qui préfère rester dans l'ombre pour parler de la joueuse, du hasard qui lui a mis les cartes en main.
Un jour, en me promenant sur les Champs-Élysées, une amie m'a invitée dans un club de jeu. Puis, avec 1000 francs, en une heure, j'ai gagné 10 000 francs, c'est l'aubaine. Alors voilà, le lendemain, je lui ai dit, mais pourquoi travailler ? Donc, il y a même un soir où j'ai gagné 80 000 francs. Je n'ai pas pu garder un seul jour. Le lendemain, j'attends l'ouverture du club de jeu pour y aller mettre toute ma mise. Le plaisir, je crois que c'est le danger, quoi. Au fait, c'est le danger parce que c'est l'attendre. Une minute quand on met la mise, c'est une montée de sensations que je ne trouve même pas en faisant l'amour, disons. C'est un orgasme, c'est un désir, mais foudroyant.
Un plaisir qui fait tout oublier, même l'échec signé au petit matin. Le joueur compulsif ne peut pas s'arrêter, il gagne parfois, mais il perd toujours.
Si je joue dans un club de jeu, qui se dit, bon, mais en une heure, en deux heures, je perds trop. Je saute dans un taxi pour aller trouver la chance ailleurs. Donc, vous voyez, c'est une course sans fin. Le plus mauvais souvenir, c'est de rester jusqu'à 5 heures du matin, après avoir tout perdu, l'argent que j'ai gagné au début de la nuit. Et c'est là que je vois que je suis vraiment la dernière de toutes les femmes qui peut exister dans le monde.
3 millions de francs de dettes, une procédure de divorce en cours. Et puis la chance, sa rencontre il y a 8 mois avec d'autres drogués du jeu, avec les Gamblers Anonymes, une association calquée sur celle des alcooliques anonymes. Même programme, même désintoxication. Aujourd'hui, elle ne joue plus ni aux cartes, ni avec sa vie.
Vous citiez tout à l'heure Elisabeth Belmas, cet auteur remarquable qui est Jean Dussault, qui a écrit au mi-temps du XVIIIe siècle et qui évoque les traits du joueur compulsif. Je suis frappé par la permanence de cela en écoutant ce témoignage féminin. À lire Dussault, on voit la régularité du jeu, oui, la capacité d'oublier ce qui s'est passé auparavant, une espèce d'optimisme invétéré.
L'optimisme, c'est très important. Oui.
On ne s'arrête pas quand on gagne, évidemment, jamais, on rejoue tout de suite. Et finalement, je vous le laisse dire,
le désespoir.
Le
oui.
désespoir.
Voilà.
C'est alors, toujours vrai, tout ça?
Tout à fait. Ça a été absolument théorisé aujourd'hui par les psychiatres qui s'occupent donc de l'addiction au jeu. Alors, cette femme décrit donc la trajectoire d'un joueur pathologique, dirons-nous, compulsif, suivant la terminologie adoptée aujourd'hui, et qui sont qui est une trajectoire décrite dès le 18e siècle. Ensuite, son témoignage est particulièrement intéressant car elle met en évidence ce que le psychiatre Marc Valeur appelle une conduite ordalique.
Expliquez-nous ça. Alors, l'ordalie, pourquoi ?
Dans l'optique ou dans la perspective de Marc Valeur, c'est une conduite qui consiste à s'engager de façon récurrente dans des épreuves à risque, même mortelles, et à l'issue imprévisible.
L'ordalie, autrefois, c'était on se confiait à Dieu qui décidait. Parce qu'on traversait une épreuve, si on était du bon ou du mauvais côté.
Là, on se confie au sort, ou à Dame Fortune, si on veut prendre cette image.
Mais c'est Dieu, disait Champfort.
Dieu ou le diable.
Et donc, je vous laisse décider.
Et donc, je ne saurais me prononcer, un historien ne se prononce pas.
Déception.
Voilà. Mais voyez, ce sont des conduites où, on remet son sort entre des mains supérieures. Et cette femme se comporte comme s'est probablement comportée une partie des élites sociales d'Ancien Régime, c'est-à-dire une partie de l'aristocratie où il y a beaucoup de militaires, donc qui aimaient le risque. Et ce sont, quand on regarde, on essaie de voir quels sont les grands joueurs d'autrefois, ils figurent, ces nobles et cette aristocratie de cour, parmi les très grands joueurs qui jouent jusqu'à ce que ruines s'en suivent. Donc, vous voyez, à travers les siècles, la conduite ordalique est la même.
Il y a un autre aspect important sur lequel vous insistez, Elisabeth Belmas, c'est la capacité que peut avoir le jeu à créer une sorte de communauté, à créer de la sociabilité, tantôt de façon horizontale parmi des professions spécifiques, c'est le cas souvent en province, dites-vous, et tantôt, comme c'est le cas à la cour, on a énormément joué sous l'Ancien Régime en mêlant les grands à d'autres, ce que certains moralistes évidemment réprouvent sévèrement.
Effectivement, le jeu a aussi un aspect de lien social. Et cet aspect de lien social se retrouve dans toutes les classes de la société. Alors autrefois, par exemple, les cabarets, les tavernes, sont des endroits où l'on joue modestement à des jeux de hasard et d'argent, ou des jeux d'adresse et d'argent. Et là, on voit tout un monde où se trouvent des domestiques. Les domestiques sont des passeurs culturels extrêmement importants.
On le voit dans Marivaux.
Absolument. Entre eux, ils prennent en général les jeux de cartes usagées de leur maître, ils les apportent dans ces tavernes, cabarets, pour jouer et jouer avec la population d'artisans du quartier. Alors, on joue également à la cour, les montants ne sont pas les mêmes. On joue lors des soirées des appartements institués par Louis XIV, c'est-à-dire que, et c'est là le paradoxe, le jeu est interdit, il est interdit, le jeu de hasard et d'argent, ou le jeu d'argent est interdit, mais à la cour, le roi et la loi, et donc il décide qu'un certain nombre de soirs par semaine ou par mois, on va jouer à des jeux de hasard et d'argent. Et alors là, en misant des sommes énormes.
Qui échappent d'ailleurs au compte public, suivant une règle qui remonte à la fin du XVIe siècle.
François Ier. Depuis François Ier, les dépenses des souverains au jeu ne figurent pas dans les comptes publics.
Au début du XVIe siècle.
Alors, dans ce milieu qui est assez mélangé de la cour, et dans ce milieu des appartements, certains ont pu faire leur chemin grâce au jeu, et grâce à leur habileté au jeu. Et l'exemple type est le marquis d'Anjou. Qui est le marquis d'Anjou, qui est un petit noble de l'île de France, et qui s'est élevé jusqu'aux plus hautes sphères grâce à son habileté de joueur.
Vous l'aimez bien celui-là?
Il est intéressant, comme les tricheurs. Parce que le marquis d'Anjou appartient, comme les tricheurs, à ce qu'on appelle les joueurs froids. C'est ce côté d'ailleurs du marquis d'Anjou est bien souligné par Madame de Sévigné. Il utilise, d'abord il connaît les règles du jeu. Et des jeux auxquels il joue, ce que n'est pas le cas de tous les participants à la cour. Et ensuite, il joue de façon modérée, de façon à tourner tout à son avantage. Et ceci l'a amené, je dirais, à l'entourage proche du roi.
La modération, la maîtrise de soi, ce n'est pas ce qui est le plus fréquent parmi les joueurs. C'est d'ailleurs ça qui souvent inquiète les pouvoirs publics. Je ne ferai pas l'économie d'une citation du juriste Barbeyrac en 1709 qui disait « Une académie de jeu est le rendez-vous des fainéants, des filous, des débauchés, en un mot de tout ce qu'il y a de plus dépravé, de plus libertin. On n'y voit que oisiveté, que friponnerie, qu'acharnement au jeu, que dépit, que dispute, qu'emportement, que fureur. On n'y entend que paroles libres. » À l'époque, c'était mal vu, que discours insolents, que blasphèmes horribles, tout y inspire la passion du jeu avec ses suites les plus honteuses. Votre cher marquis échappait à ça?
Oui, totalement. Il illustre ce processus d'intériorisation des sentiments et de maîtrise des comportements, ce qui est un processus de construction de l'être moderne. Le marquis d'Anjou sait réfréner ses passions, faire parler sa raison et garder toujours une parfaite politesse.
C'est ce qui se passe dans les cercles de jeu qui ont été scrutés apparemment récemment par le ministère de l'Intérieur avec tant d'attention et tant de méfiance. C'est une histoire récente mais intéressante.
Alors je ne sais pas si le ministère de l'Intérieur s'est intéressé à cet aspect de l'urbanité. En tout cas, il existait un certain nombre de cercles de jeu, en tout cas à Paris, il y en avait une dizaine, et très récemment, donc 9 sur 10 ont été supprimés. Un seul a été maintenu. Aujourd'hui, la loi de 2018 en recrée un certain nombre, mais avec des statuts différents, une imposition différente. Et puis une surveillance accrue. Car je pense que ce que le ministère de l'Intérieur surveillait dans ces cercles de jeu, c'était les blanchiments d'argent.
À l'époque aussi, en 18e?
Alors, est-ce qu'on peut parler de blanchiment d'argent? La fiscalité n'était pas la même. Ça n'est pas un des thèmes, en tout cas, le blanchiment de l'argent n'est pas un des thèmes qui émerge dans la condamnation des académies clandestines. Non, le thème qui émerge, c'est le fait que cet argent est gaspillé.
Mais il y a néanmoins la question des relations avec l'étranger, puisque un des motifs, nous dit-on, pour lesquels on a créé la royale des jeux,
la loterie royale de France, oui.
Je suis exprès anachronique. C'est précisément parce que la monarchie s'inquiétait de voir beaucoup de jeux qui enrichissaient des loteries étrangères.
Alors là, c'est pas tout à fait le blanchiment de l'argent, mais c'est l'évasion financière. En effet, la monarchie française a été l'une des dernières à créer une loterie royale, une loterie nationale en gros, hein, la loterie royale de France. Tous les autres États européens avaient créé des loteries auparavant, et certains bien avant la France. Même le Vatican avait créé une loterie. Enfin, ah bon. C'était pas le Vatican, c'était les États du Pape avaient créé une loterie.
Et la question des finances du Vatican est un domaine dans lequel, si vous le voulez bien, nous ne nous aventurons pas aujourd'hui.
C'était les États du Pape à l'époque. Et donc, la monarchie, d'une part, s'est aperçue qu'elle se privait de ressources tout à fait considérables, et d'autre part, que les Français allaient miser à l'étranger. Donc, il y avait une évasion des ressources financières.
On retrouve en tout cas, sous la Révolution, cette méfiance morale, mais élargie, puisque la Révolution décide de, d'abord de transformer la loterie royale en loterie nationale, et puis ensuite de la supprimer en novembre 1793. Auparavant, Talleyrand, qui était soutenu d'ailleurs par Mirabeau et par Dupont de Nemours, avait demandé l'abolition de toutes les loteries. Le discours de Talleyrand est resté célèbre. Il disait « Un impôt. Quel impôt que celui qui ne peut être prélevé qu'autant qu'on égare la raison des peuples ?» Je ne sais pas si la Française des Jeux pourrait écrire ça en épigraphe de son activité.
La phrase de Talleyrand était en quelque sorte une réponse à la phrase de Casanova qui disait que la loterie était un impôt indolore par excellence. Un impôt consenti par excellence. Alors, c'est vrai que la loterie a subi ainsi des avatars. Elle a été supprimée par la Convention pour des raisons morales, mais elle avait été extrêmement attaquée à la fin de l'Ancien Régime. Et entre autres par le Parlement de Paris qui était peuplé de jansénistes, lesquels menaient la guerre contre les loteries. Et ensuite, elle a été rétablie par le Directoire, encouragée par l'Empire, puis supprimée par la Monarchie de Juillet en 1832.
Renaissant quand ?
Elle est reparue, alors entre la Monarchie de Juillet et le XXe siècle, il y a eu des loteries ponctuelles, qu'on appelait des loteries de charité pour des bonnes causes. Elle est réapparue en 1933, il y a eu pratiquement un siècle de suppression de loteries. Et en 1933, elle est réapparue pour deux raisons. D'une part, il fallait bien trouver de l'argent pour les pauvres blessés et handicapés de la Première Guerre mondiale.
Les gueules cassées, quand j'étais enfant, on vendait encore ça dans les rues.
Absolument.
Les tickets, les billets.
Et l'autre raison, c'est que ce besoin d'argent arrivait en un moment où la crise de 1929 avait saisi, où les finances de l'État étaient à sec.
Alors, je vous propose une dernière archive qui me paraît propre à conclure assez bien notre conversation sur la passion du jeu. Autrefois, naguère, et à présent, c'est la lecture d'une lettre de Dostoïevski à son frère par Pierre-Olivier dans les Samedis de France Culture le 13 décembre 1975. Je rappelle que Dostoïevski est l'auteur d'un roman extrêmement fameux et tout à fait topique pour nous, qui s'appelle précisément Le Joueur.
Tu m'écris que tu ne comprends pas comment on peut perdre ainsi jusqu'à son dernier sou quand on voyage avec un être aimé. Ami Micha. À Zurich, j'ai inventé un système. Je l'ai essayé et j'ai gagné sur le champ 10 000 francs. Vers le matin, j'étais passablement excité. Je me suis écarté du système et en un clin d'œil, j'ai perdu. Le soir, je suis revenu à mon système, je l'ai strictement suivi et j'ai regagné rapidement, sans la moindre peine, 3 000 francs. Dis-moi toi-même, après une pareille expérience, comment ne serait-on pas entraîné? Comment ne croirait-on pas qu'en attachant scrupuleusement au système, on gardera la chance en main? Et j'ai besoin d'argent. Oui, j'en ai besoin pour moi, pour toi, pour ma femme, pour le roman. Ici, par le jeu, on gagne 10 000 florins sans peine. C'est pour vous sauver tous, et moi avec vous pour finir que je suis venu ici. Et j'ai foi dans mon système. Encore un détail. Arrivé à Baden, je vais à la table de jeu. Je gagne en un quart d'heure 600 francs. Cela m'excite, mais voilà que tout à coup, je commence à perdre. Impossible de m'arrêter, je perds tout, jusqu'à ma dernière pièce de monnaie. Après que je tue ces cris de Bad, je pris tout ce qui me restait d'argent et je retournai au jeu. En un quart d'heure, avec 4 napoléons, j'en gagnais 35. Ce bonheur extraordinaire m'enivra. Je hasardai ces 35 napoléons ensemble et les perdis du coup. La note d'hôtel payée, il nous restait 6 napoléons pour le voyage. À Genève, je fus bien forcé d'engager ma montre.
En écoutant cette lettre, évidemment, on ne peut que penser au grand roman de Dostoïevski qui s'appelle « Le joueur » et dont Freud en particulier s'est emparé pour les analyses originales.
Bien sûr, Freud s'est intéressé au cas de Dostoïevski, qui peut apparaître comme l'archétype du joueur compulsif. Et Freud voit dans ce désir de destruction par le jeu une sorte d'autopunition du fantasme de parricide qui poursuit Dostoïevski.
C'est pour tenir la place de l'exécution de ce désir ?
En quelque sorte.
Et vous appliqueriez ce commentaire à cette tendance très, très générale dont il faut dire un mot pour finir, toujours l'influence du vocabulaire britannique, la gamification. Je vous demanderai un mot, une traduction. La gamification de notre société. Il n'y en a pas ?
Pas vraiment sur la gamification.
Concours
et
de...
alors certains disent la ludicisation, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Bon, je lance le concours d'idées auprès de nos auditeurs. Mmh. Alors ?
Eh bien, gamification ou pas, je dirais que il ne faut pas oublier que le jeu, pratiqué de façon modérée, et je reprends le discours des moralistes d'autrefois, est facteur de joie, de lien social et du plaisir. Alors, nous avons beaucoup insisté sur les concordances entre hier et aujourd'hui.
Je vous en remercie.
Mais je voudrais souligner une discordance. C'est que depuis 2010, les jeux d'argent en ligne sont autorisés.
Je vous en remercie aussi.
Et ça, c'est une très grande différence par rapport au passé, puisque ces jeux se sont développés. Ils ne rapportent pas encore autant que les jeux traditionnels de grattage et de tirage, mais leur développement est tout à fait prometteur.
Voilà. Spectaculaire, prometteur,
spectaculaire,
c'est moral.
Spectaculaire, oui. Et donc, ces jeux, si vous voulez, sur les structures mêmes des jeux reprennent. Ce sont des jeux de tirage, de grattage, du poker. Ce sont les paris en ligne, entre autres les paris sportifs. Ils reprennent donc des principes de jeu qui existaient déjà, mais le véhicule est très différent. Et ceci a attiré l'attention des sociologues, des anthropologues, sur un phénomène qui se diffuse, qu'on appelle la gamification de la société. C'est-à-dire que beaucoup d'activités sociales ont tendance à devenir aujourd'hui des activités ludiques, à prendre une forme ludique. Et l'exemple qui m'a frappée, puisque j'ai assisté il y a quelque temps à un colloque sur cette gamification de la société, c'était celui des sites de rencontres, qui étaient construits pour certains comme une véritable activité ludique, avec un progrès, un bonus si on avait des rencontres réussies, on régressait si ces rencontres n'étaient pas avaient échoué. Donc il y avait l'application à une activité sociale, des principes qui étaient des principes des jeux. Il est certain que le phénomène des jeux vidéo d'abord, puis des jeux en ligne, est un phénomène nouveau que nous devons scruter et qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Scrutons donc, scrutons. Merci Elisabeth Belmas. Le livre sur lequel je me suis appuyé pour fonder notre conversation, qui est paru chez Chamballon en 2006, s'appelait « Jouer autrefois ». Essai sur le jeu dans la France moderne, 16e, 18e siècle. Et puis je voudrais aussi jeter un trait de lumière sur votre dernier ouvrage qui est paru chez les éditions du CNRS, CNRS Éditions, en 2018, « Les soldats du roi à l'hôtel des Invalides, étude d'épidémiologie historique 1670-1791 ». De quoi s'agit-il ? Ces soldats, quand ils étaient aux Invalides, ils jouaient beaucoup ?
Ils étaient broteurs, jureurs, joueurs. Parfois, ils aimaient bien boire.
Donc, vous les aimez bien ?
Beaucoup. En travaillant sur le jeu, j'ai été amenée à m'intéresser aux pathologies du jeu. Et de là, je me suis orientée vers l'histoire de la santé et les maladies. Et j'ai rencontré le chemin des soldats du roi.
La ludopathologie nous a conduit aux Invalides.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous trouverez, mes chers auditeurs, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés, la chanson et les archives sonores. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, je vous retrouverai, j'en suis sûr, pour parler de Mahomet en Europe. Et je recevrai pour en parler John Tolan, qui vient d'écrire un ouvrage important sur ce thème, évidemment d'actualité. Lundi matin, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire de notre cher Emmanuel Laurentin, qui proposera une série thématique autour du thème du corps. C'est à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du Monde Arabe. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Nicolas Depas-Graff, avec Nathalie Rouvillain
à la discothèque et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delavaux. Comme toujours, la documentation et la bibliothèque de Radio France nous ont également apporté un concours précieux. Et maintenant, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.